Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
Alors, bonjour, bienvenue au mordu de San Diego de Compostelle. Mon invité cette semaine, le camino pour lui, c'est le changement drastique de sa vie. Rencontre de son amoureuse et cerise sur le Sunday. Il quitte la Belgique en mars pour reprendre le célèbre bar La Tienda à Marie, près de Pampelune. Olivier Amari est avec nous. Buen camino! Alors, bonjour Olivier, comment ça va?
Ça va très 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 bien. Je suis ravi de parler avec toi. J'ai écouté tes podcasts, j'ai trouvé ça génial, super intéressant. Et donc, je suis vraiment content d'être moi-même interviewé.
Hey, t'es super gentil, c'est très apprécié. Écoute Olivier, moi j'ai lu un peu sur toi et je trouve que ton cheminement puis ton histoire assez incroyable. La raison première de ce podcast-là, c'est vraiment de faire entendre des gens comme toi qui vivent des expériences extraordinaires sur le chemin. Et j'aimerais ça parler de ton expérience. Premièrement, comment t'as connu Compostelle, Olivier?
Alors, vraiment par hasard. J'avais changé de travail et j'étais un peu paumé. J'étais un peu perdu. J'avais perdu mon travail. J'avais changé de travail. Ma compagne m'avait quitté. J'étais désespéré et un jour je suis tombé sur le film Saint-Jacques la Mecque et j'ai adoré le principe. Donc c'est des gars qui sont malheureux, qui ont des soucis au départ et puis ils marchent, ils partent du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle et après ils se retrouvent transformés et ils sont heureux, ils trouvent le bonheur. Alors je me suis dit on va faire ça quoi. Et bon, le problème, c'est que j'étais pas un sportif à l'époque, j'étais en pleine déprime, je fumais un, même deux paquets quand ma compagne m'a quitté, et de cigarettes, et je buvais régulièrement une bouteille de vin, du bon vin, mais bon, c'était un peu trop, quoi. Et genre, je mangeais un peu n'importe quoi, toutes les cochonneries, les pizzas du docteur machin, là, qui est pas du tout un docteur, je pense.
D'accord.
Des salamis, des chips et tout ça. Et donc, finalement, j'allais même parfois, il m'arrivait d'aller vomir dans les toilettes une fois par semaine parce que, bon, ce que mon médecin m'a dit, en fait, monsieur, vous avez un ulcère à l'estomac, quoi. Je m'étais retrouvé avec des trous à l'estomac. Donc, j'ai fait le chemin et j'étais pas du tout préparé. Donc, comme tout le monde, j'ai acheté des guides, des pseudo-guides faits par des gens qui, à mon avis, n'ont pas fait le voyage.
Oui.
Et on me disait, voilà, vous devez prendre ça, ça, ça et ça. Donc, je me suis retrouvé avec un équipement qui n'était pas du tout adapté, donc un sac à dos de 50 litres, 12 kilos donc sur le dos, un gros sac de couchage. Je partais au mois de juillet. Au mois de juillet, il fait très chaud, donc il faut pas un gros sac de couchage. Et des bottines avec des bouts métalliques qu'on utilise pour aller dans les chantiers, tu vois.
Ah oui, nous ici au Québec, on appelle ça des capes d'acier.
Ah ben voilà, ouais. C'est exactement ça. Le terme est bien expliqué, bien. Et tu vois, j'avais vraiment pas du tout ce qu'il fallait pour faire le chemin. J'avais des trucs totalement inutiles comme des pompes à venin, des couvertures de survie. J'ai fait le Camino Frances, hein, donc j'ai pas fait le Puy-en-Velay. Donc j'ai fait les 800 kilomètres, avant Saint-Jacques-de-Compostelle, où on commence par une montagne.
Oui, par Saint-Jean-Pied-de-Port.
Donc voilà, donc moi pas du tout préparé, très mauvaise santé, très mauvaise hygiène de vie. Le premier jour à Saint-Jean-Pied-de-Port, le lendemain plutôt. Bon, bien sûr, j'ai pas dormi parce que j'étais. Je pense qu'il y a beaucoup de pèlerins qui tellement ils sont excités, tellement ils ont peur aussi, hein, parce que tu vois, c'est. Tu fais quelque chose que t'as jamais fait, tu sors vraiment de ta zone de confort et t'as la trouille, quoi. Tu sais pas ce qui va arriver. Quand je suis arrivé à l'accueil Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais 12 kilos. J'ai demandé à un des gars qui était là, un espagnol, parce que je parle un peu espagnol, si c'est pas trop. Il me disait, mais non, vous êtes fort comme un mulet. Bon, ouais, j'avais quand même 40 ans et j'allais vomir dans les toilettes et j'étais pas fort. Enfin, bref. Il m'explique qu'il y a une montée très dure, mais je réalise pas encore qu'il y a un dénivelé très important les 7 premiers kilomètres. Donc, oui. De Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Orisson. Ça, je comprenais pas. Donc, le lendemain, il fait très chaud. Et moi, je sympathise avec le propriétaire du chemin des étoiles. C'était pas encore Éric Viotte qui allait être le propriétaire. Et, avant de partir, je bois 2-3 bières avec le gars et je fume mes cigarettes. Puis je pars vers 10h, 10h30. Putain, je me rends compte que c'est haut ce truc, ça monte fort. Mmh. Et je transpire beaucoup et je bois beaucoup. Bon, je t'ai expliqué, j'avais aussi une petite gourde métallique. Hein. J'ai pris les trucs les plus lourds, hein, parce que j'étais pas très malin. Maintenant, je conseille à ceux qui font le chemin de prendre des camel packs, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est moins lourd et en plus, ça reste à l'intérieur du sac, donc ça reste frais. Et après 2 kilomètres, 3 kilomètres, j'ai plus d'eau. Donc je crève de soif. Tout ce que je bois se transforme en eau. Donc j'apprends, le chemin apprend quelque chose dans la, vous apprend des choses. Mmh. La première chose, c'est que l'alcool, ben, ça donne soif. Mmh. Et donc c'est peut-être pas une bonne idée de commencer le chemin en buvant. Donc buvez plutôt quand vous arrivez, c'est la récompense, mais pas avant, parce que c'est fatigant aussi. Ça fatigue aussi quand il y a du soleil et la bière, ça fatigue fort.
Exact.
Donc ça, c'est ma première leçon du chemin. Puis ça a été tellement dur que j'ai dû m'arrêter. Au 4e kilomètre, j'avais plus d'eau, j'avais mes pieds c'était des fours, hein, ça transpirait, j'en pouvais plus. Donc je me suis arrêté au 4e kilomètre et j'en pouvais plus quoi. Et là, tu vois, j'étais pas un garçon, j'étais pas bien dans ma peau. Avant de partir, j'avais bu un verre avec mes copains. Et mes copains me voyaient pas réussir le chemin. Ils me regardaient avec un peu de pitié quand je suis parti. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'ils avaient peut-être raison, que j'étais pas capable de faire le chemin. Et j'ai vraiment pensé à arrêter, à rentrer chez moi. Et pendant 30 minutes, j'ai commencé à m'apitoyer sur mon sort. Et puis finalement, je me suis dit, allez, on va quand même continuer un petit peu. Et j'ai eu une chance. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai continué le chemin. C'est que je suis arrivé à Honto. C'est une chambre d'hôte juste avant Horizon. Et là, je me suis arrêté et j'ai bu de l'eau pendant, je suis resté là. J'ai bu des cafés, j'ai fumé mes cigarettes, j'ai bu beaucoup d'eau. Et là, j'ai eu le courage de recontinuer. Et alors là, après, j'ai fait des rencontres et ces rencontres, ça m'a beaucoup aidé à oublier la douleur et à arriver jusqu'à la première étape. Je savais pas qu'en fait qu'il y avait une étape là, mais à Horizon, à 1 heure, je me suis arrêté là et j'ai dormi.
Oui, parce que après, toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu partais pour aller faire le chemin, au départ, c'est parce que tu vivais une peine d'amour, tu avais certaines dépendances, tout ça, que tu voulais régler dans ta vie, puis tu t'es dit, je vais aller faire Compostelle pour te rendre un homme meilleur, finalement, c'est ça?
Alors, j'étais aussi un peu ignorant. Donc, j'ai une belle phrase d'Anatole France qui dit « C'est dans l'absolue ignorance de notre raison d'être qu'est la racine de notre tristesse et de nos dégoûts. » Donc, j'étais malheureux. Cette femme m'avait quitté. Ça a été la goutte d'eau, effectivement, comme tu dis, qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire, je suis passé d'une bouteille de vin à 2 bouteilles de vin et d'un paquet de cigarettes à 2 paquets de cigarettes. Donc, j'étais vraiment dépendant et tendance à déprimer. Donc tu peux m'imaginer, je suis un mec d'1m87 et quand je marchais à ce moment-là, j'avais les épaules voûtées, je regardais plutôt mes pieds que regardais devant moi, donc je faisais vraiment peine à voir. Effectivement, j'ai pris le chemin parce que je croyais que c'était mon dernier espoir quoi. C'était mon dernier truc parce que je sentais que j'étais vraiment au bout du rouleau.
Ouais.
Et en marchant, j'ai commencé à, comme je te dis, pour plus sentir la douleur, parce que ça fait vraiment. Au deuxième jour, j'avais déjà des grosses ampoules sous les pieds à cause de ces foutues chaussures avec un bout métallique à l'intérieur. Donc, pour oublier la douleur, je parlais avec les gens. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Je crois que les hommes, ils sont comme ça, ils ne sont pas nature à se confier. À leurs copains, on a plus à celui qui pisse le plus loin, celui qui a les plus grosses coucougnettes.
Ouais.
Et donc, on parle pas de nous, quoi. On dit, ouais, moi j'ai fait ça, mais on va pas dire, moi je vais mal. Et là, je sais pas pourquoi, sur le chemin, j'ai commencé à parler à des inconnus, à raconter mes problèmes. Et si tu veux, ça m'a fait du bien de raconter vraiment ce qui n'allait pas. Donc, ma compagne qui m'avait quitté, qui s'est remise avec quelqu'un assez vite d'ailleurs, je lui pardonne maintenant. Et le fait de parler avec des gens, ça m'a commencé à me libérer.
Oui, parce que c'est aussi ça la beauté du chemin, c'est de les rencontres que tu fais qui peuvent vraiment changer un peu ta destinée. Là.
Exactement. Tu vois, quand on marche, en général, on fait entre 15 et 25, 40 pour les plus sportifs. Et comment dire, t'as que ça à faire, c'est parler avec des inconnus. Et donc, comme vous avez le temps, parce que vous avez des longues marches, ben, tu marches avec une personne et en une journée, tu sais toute sa vie, quoi. Ses bonheurs, ses joies, ses tristesses, les raisons pour lesquelles il fait le chemin. Tu vois, le chemin de Compostelle, c'est ça qui est formidable, c'est que chacun a des raisons personnelles de faire le chemin, des raisons positives ou des raisons négatives. Moi, cette année, en 2009, hein, je l'ai fait en 2009, la première fois, oui. Eh ben, je l'ai fait pour des raisons négatives. Et parlant avec les gens, ça m'a fait du bien. À un moment, je parlais un peu trop avec les gens, et alors là, j'ai décidé d'un moment au niveau de la Meseta.
Oui.
Quand je suis arrivé à la Meseta, aux environs de Burgos, hein, c'est un endroit où il y a rien. Il y a vraiment plus rien. Et là, je me suis dit, je vais arrêter de parler avec les gens maintenant, et je vais essayer de réfléchir à mes problèmes et pourquoi je suis là et comment je peux changer. Parce que finalement, à un moment, t'as parlé avec les gens, mais tu commences à identifier tes problèmes, mais tu te dis, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc, pourquoi je fume et pourquoi je bois? Parce que ça, je le faisais avant que ma copine me quitte. Donc, je me dis, mais pourquoi j'ai toujours cette dépendance, comme tu dis, ces dépendances.
C'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant parce que tu me parles de Burgos, mais Burgos, on arrive dans la section un peu mentale du chemin pour finir un peu spirituellement, mais là, tu te posais vraiment des questions sur toi-même, puis c'est vraiment intéressant parce qu'on arrive à cette étape-là, là, dans le mental finalement du chemin sur la Meseta, et là, tu dois avoir trouvé réponse à tes questions pas mal dans ce coin-là. Là.
Oui, ben exactement, parce que c'est un lieu où tu as très peu de paysages, où c'est y a quasiment rien. Tu as des arbres qui ressemblent parfois à des baobabs dans la savane africaine. Et donc, c'est vraiment un bon moment pour faire de l'introspection, quoi, et réfléchir un peu à ta vie, quoi, à toi-même, à rentrer en toi-même. Et donc j'ai fait, maintenant ils appellent ça une psychanalyse, mais donc je me suis dit, mais pourquoi j'ai ces dépendances? Et j'étais vraiment en profondeur en moi-même, et j'ai compris qu'en fait dans ma vie il y avait des choses que j'avais pas pu affronter, des conflits. Parce que j'avais pas eu de père. Enfin, c'est mon explication, hein. Il y a plein d'explications, mais moi, c'est ce que je me suis dit. Donc, il m'a manqué un père. Et alors aussi, j'avais un problème d'identité. C'est assez amusant parce que si tu regardes sur les sites de Compostelle, il y a trois gars dont tu connais qui ont aussi des origines mixtes, peut-être, arabo. Moi, j'étais moitié tunisien, moitié belge. Moi, j'avais un problème d'identité à ce niveau-là. Et ben, regarde, t'as Madi du Camino, t'as Jamel, et puis maintenant, moi, je commence un peu à parler de moi. Donc, tu vois, je trouvais ça assez troublant comme truc. Moi, j'en parle plus maintenant. Mais donc, je me suis rendu compte que j'avais ce problème d'identité et le fait de ne pas avoir de père, et qu'en fait, tout au fond, ce qui me faisait boire et fumer, c'était que je ne m'aimais pas. Et plutôt que me suicider, comme ça aurait été plus simple, je préférais me tuer à petit feu. Alcool et cigarettes. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'étais super heureux. J'avais déjà fait la moitié de la Meseta. Je suis arrivé après Carrion de los Condes, à Terra Dios de los Templarios. C'est là que j'ai compris mon problème. Ouais. Et à partir de là, le reste de mon chemin, ça a été comment faire pour m'aimer.
Oh, wow!
Voilà. Et donc, mais ça n'a pas pris un chemin. Hein, parce que le premier chemin, ça, il y a un truc qui est extraordinaire aussi, c'est que tu commences à prendre confiance en toi, parce que tu regardes derrière toi, tu vois, j'ai fait 300, 400, 500 kilomètres.
Ouais.
Comment dire? Donc, tu vois, je regarde en arrière et je me dis, j'ai fait tous ces kilomètres-là, je suis capable de le faire. Ouais. Donc, j'ai pris confiance en moi aussi, je me suis rendu compte que je pouvais dépasser mes limites.
Ouais, et en plus, si tu fais la comparaison avec tes débuts ont été très difficiles, tu pensais pas réussir, tu étais rendu à horizon et tu pensais peut-être même arrêter. Et là, soudainement rendu sur la Meseta, l'endorphine, la joie de vivre, c'est ça que ça apporte un peu le chemin, là.
Oui. Donc, on est passé d'un état totalement dépressif, mal dans sa peau, à la personne qui prend confiance en elle. C'est aussi il y a aussi autre chose, hein. Il y a les endorphines et puis il y a aussi la luminosité. J'étais parti au mois de juillet, le ciel est bleu, il fait chaud, en Belgique il fait froid, gris. Donc les endorphines, le fait de marcher, parce que tu te sens très fort, hein. Tu as des gens qui commencent à Burgos, qui commencent à Léon, et ben toi tu les dépasses sans problème, quoi, alors qu'au début tu peinais, tu sens plus la douleur des pieds, tu te sens fort. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses.
Wow.
Et en plus, j'avais découvert ce qui n'allait pas chez moi. Donc, comme je le dis à des personnes, parce que les gens, ils me disent, je leur dis, je sais pas si quand toi, tu reviens, tu dis pas la même chose, tu dis, allez faire Compostelle, allez faire Compostelle. Et les mecs, ils te regardent, mais t'as vu, moi, je n'aime pas marcher. Et en fait, Compostelle, à part les deux premières semaines, je dirais les deux, trois premières semaines, c'est tout sauf marcher, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est surtout c'est tout le reste, quoi. C'est une thérapie à tous les niveaux, quoi.
Ah, t'as entièrement raison. C'est vrai, c'est un aspect du chemin qu'on oublie souvent, mais c'est totalement vrai ce que tu dis. Quand on est sur le chemin, à un moment donné, on pense même plus qu'on marche. Souvent, je sais pas si toi ça t'est arrivé, je l'ai expliqué souvent dans les podcasts. Moi, ça m'est arrivé personnellement à 4-5 reprises, mais des fois, on est en transe. On marche, mais on s'en rend même pas compte.
Oui, tout à fait.
Et le soir, quand on dort, mais on rêve qu'on marche.
Oui. Oui.
C'est complètement inusité. C'est pas ce qu'on vit dans nos vies quotidiennes. Mais pendant la période qu'on est à Compostelle, on découvre une partie de notre cerveau qu'on n'utilise pas. On découvre une joie de vivre aussi. On pense à nous, hein, parce que quand on est à la maison, souvent on pense à notre loyer à payer, notre maison, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va écouter, tout ça. Là-bas, on ne pense qu'à marcher, à trouver un albergué, et on pense à nous en premier. C'est ce qui te fait du bien, parce que je suis pas mal sûr que durant tes mésaventures un peu avec ton ancienne femme, à un moment donné, on perd confiance en nous, puis on s'oublie. Puis là, quand on tourne sur le chemin, mais là, finalement, on se redécouvre nous-mêmes.
Oui. Et alors, il y a aussi un, tu vois, le poids du sac. J'aime bien cette métaphore. Tu vois, au départ, t'as 12 kilos. Et puis, la première étape, tu te rends compte que t'as trop et tu commences à retirer du poids. Et puis, même au fur et à mesure, tu retires. Et je pense que ça, tu fais aussi un récurage. Tu te nettoies et tu gardes seulement, tu retires des problèmes que tu t'étais causé dans la vie, que tu pensais importants et qui finalement ne sont pas du tout importants et dont tu peux te débarrasser. Ouais. Donc, si tu veux, comme dirait Balou dans le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux aussi. Tu comprends ça, que, en fait, si tu veux être heureux, il te faut un toit, de quoi manger et voilà, de quoi marcher, quoi. Donc, il en faut, tu te rends compte que tu t'es compliqué la vie aussi, qu'avant en Belgique, je m'étais vraiment compliqué la vie. Ouais. Et ça, je sais pas si c'est au premier chemin ou au deuxième chemin que j'ai compris ça.
Ouais, parce que toi, tu l'as fait souvent le chemin, là. Tu l'as fait combien de fois?
Ouais. J'ai fait, on va dire maintenant, 11 fois Saint Camino Frances.
Ouais.
Et, une autre fois, je suis parti de chez moi, j'étais jusque Châlons en Champagne. C'était pendant le confinement, quoi.
OK.
En 2020.
Wow.
Ouais, parce que le problème du chemin, c'est qu'on est tellement bien, on a une telle énergie, on rencontre des gens tellement formidables, qu'on se dit que quand on revient chez nous, ça va être la même chose. Or, c'est pas du tout la même
chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Non. Mais tantôt, on va en parler du retour, mais parle-moi. Là, t'es rendu à Bourgogne, à Lyon, et là, tu te diriges tout droit vers Compostelle. C'était quoi ta réaction quand t'as vu le panneau Santiago de Compostelle? As-tu eu une grosse réaction? Moi, j'avais eu une très grosse réaction quand j'avais vu ça. Et toi, après avoir marché 800 kilomètres, puis que tu vois ce panneau-là, puis comment fier que t'es rendu de toi-même, as-tu eu une réaction ou peut-être c'est plus loin, toi, ta réaction ou...
Moi, ça n'a pas été là. Ça a été quand je suis arrivé à la cathédrale.
OK, d'accord.
Là, j'ai craqué, quoi. Là, j'ai craqué.
OK.
Vraiment, j'ai craqué. Et j'avais marché avec un gars qui était aussi un type qui avait fait aussi plusieurs fois, qui lui, la première année, il avait déjà fait plusieurs fois Compostelle. Et lui, il avait été très délicat, tu vois.
OK.
Et il m'a laissé partir tout seul, tu vois.
Ah parce oui.
Il savait ce que... J'allais éclater en sanglots comme...
Vive ton moment, là.
Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, ça a été mon plus beau moment, ça. Ça, c'était mon plus beau moment. Voilà. Et après, j'ai beaucoup pleuré. Enfin, sur le chemin, ça t'arrive beaucoup de pleurer parce que tu penses... Enfin, moi, en tout cas, je pensais à des échecs que j'avais eus dans la vie et j'ai beaucoup pleuré.
Ouais, moi, ça, c'est un conseil aussi que je donne aux gens. Ben, les gens qui m'écoutent en ce moment... qui n'ont pas fait le chemin, il y a des grandes chances que durant votre marche, que ça vous arrive de pleurer. C'est vraiment, vraiment normal parce que on est tellement avec nous-mêmes que des fois, les sentiments sortent seuls. Puis même quand tu es heureux, ça, il y a des grosses chances que tu pleures aussi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Puis quand on arrive à Compostelle, comme tu dis, puis qu'on voit la cathédrale après avoir marché 800 km à notre premier chemin, là, souvent, là, notre premier chemin, là, c'est sûr que les genoux plient un peu. Puis c'est quel beau moment. Là. J'aimerais ça aussi que tu me parles des gens qui peuvent t'avoir influencé durant ton premier chemin. T'as-tu gardé contact? Peux-tu me parler de certaines rencontres que tu as faites durant le premier chemin?
Alors, tu vois, quand je parlais du travail intérieur et tout ça, j'ai rencontré un gars qui m'a dit un jour, qui m'a dit à un moment, écoute, arrête d'aller vers les gens et attends qu'ils viennent vers toi. Okay. Et donc, à un moment, je parlais avec des gens, puis j'ai décidé de rester un peu tout seul. Donc ça, c'était le premier enseignement, le premier guide, si tu veux, du chemin que j'ai écouté. Puis il y a eu un certain Marcello Labato, c'est le Peregrino Passante à Logroño, qui lui m'a dit que le chemin c'est un peu comme la vie mais en plus rapide quoi. Donc tu peux tout se faire sur le chemin. Bon, c'est pas seulement un chemin spirituel, c'est un chemin où on va boire, on va faire la fête, on va rigoler, on va peut-être rencontrer l'amour, ça m'est arrivé. Donc il se passe plein de choses comme dans la vie quoi, comme dans la vie. Mais ça va un peu plus vite. Ça, je crois que c'est deux personnes qui m'ont influencé au début. Après, le chemin fait aussi... Il y a un truc, quelque chose que même si on n'est pas croyant, parce que j'ai parlé avec des gens qui sont pas croyants, mm-hmm. Il y a des miracles sur le chemin.
Ah, il faut que tu me parles des miracles. Si tu veux parler tout de suite des miracles, je vais te poser tout de suite mes trois questions que je pose toujours, qui est vraiment important pour moi, c'est parle-moi de tes miracles, parle-moi aussi du retour et des rencontres, on en a parlé un petit peu, mais des rencontres aussi marquantes. Mais on va commencer par les petits miracles. Es-tu arrivé des petits miracles sur le chemin?
Alors, la première chose, j'ai observé un miracle. Donc, le premier jour, je suis arrivé à Horizon et il y avait un monsieur qui s'appelait Amar. Je sais pas si t'as entendu parler de lui. Il est décédé maintenant. Il faisait partie de l'ordre de Malte. Donc c'était un groupe d'individus qui aident les gens qui sont un peu dans la détresse et qui les aident quoi. Et Amar, il avait été à la Légion étrangère et il avait appris à guérir les gens qui avaient des bobos avec ses mains. Donc on l'envoyait à la Légion étrangère en Chine. On l'avait envoyé en Chine pour apprendre à guérir les gens, à être docteur mais avec les mains, tu vois. Et sur le chemin, j'avais vu une femme, Patricia. Elle avait eu une entorse. Elle ne savait plus marcher en haut d'Horizon. Elle venait du Puy-en-Velay. Elle était totalement paralysée. Et on lui avait dit de rencontrer Amar. Et donc, Amar était là. Il chipotait avec sa jambe. Et bon, moi, à l'époque, je ne faisais pas attention. Et puis, j'ai revu cette femme à Santo Domingo de la Calzada. Et elle m'avait expliqué qu'elle n'avait plus du tout de douleur, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, ce gars-là. Et en 2011, j'ai retombé sur lui à Saint-Jean-Pied-de-Port, parce que c'était un ami d'Éric Viotte, le propriétaire du chemin de Compostelle. Et je m'étais fait une entorse. J'étais parti de Conques jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle cette année, c'était en 2011. Et je m'étais fait une entorse. Et lui a pris mon pied, il m'a chipoté, il m'a dit « ça ira jusqu'à Compostelle ». Et effectivement, j'ai pu aller jusqu'à Compostelle grâce à lui. Tu vois, ça, c'était des petits miracles, des gens qui peuvent te guérir. Alors, un grand miracle, un truc énorme, oui. Ça a été une Américaine que j'ai rencontrée en 2015, Liza. Okay. Elle avait, en 2007-2008, elle avait créé son entreprise. C'était une Américaine californienne et elle faisait, c'était vraiment une redneck quoi. Elle roulait en Harley Davidson, était une chef d'entreprise et tout ça. Et sur l'autoroute, elle s'est faite écraser. Elle a eu un accident. Elle est tombée dans le coma. Sa jambe était totalement en petits morceaux, si tu veux, sur l'autoroute. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Dans le coma, ses parents ont décidé de fermer son entreprise et le médecin a demandé aux parents et leur a dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour la jambe de leur fille et qu'il fallait couper soit au-dessus du genou ou soit en dessous du genou. Et les parents ont dit « écoutez, on va attendre que notre fille se réveille ». Et la fille s'est réveillée et le médecin lui a dit « voilà, on va couper votre jambe en bas ou en haut ». Et elle a dit « non, je refuse ». Alors dit, écoutez, moi je peux rien faire. Alors elle a été voir des profs du NIF et tout ça, et ils ont décidé. Ils ont dit, d'accord, si vous voulez, on va tenter l'expérience. Alors on lui a mis une barre de métal et on lui a remis sa chair autour de sa jambe, tu vois. Mais elle savait pas marcher, elle savait plus marcher. Elle avait trop mal pour marcher, et donc elle était en chaise roulante. Et un jour, elle a entendu parler de Compostelle. Et en 2010, elle a fait Compostelle avec sa chaise roulante et une béquille, et deux béquilles. Et ben, quand elle est arrivée à Compostelle, au départ, elle a eu beaucoup de mal, hein. Elle faisait 3 kilomètres, 5 kilomètres. Mais à la fin, elle est arrivée sur les deux pieds devant la cathédrale de Saint-Jacques.
Oh,
quand elle m'a raconté son histoire, c'était magnifique. Alors, elle m'a expliqué, elle est rentrée aux États-Unis, et alors ses parents l'attendaient. Et ils attendaient de voir leur fille sortir du côté handicapé, tu vois. Et au lieu de ça, ils ont vu leur fille marcher debout, sans sa béquille, comme une personne qui était guérie, quoi. Donc, quand elle m'a raconté cette histoire, j'étais vraiment ému, quoi.
Wow.
Elle s'en est sortie. Mais elle souffre encore, hein, mais elle est beaucoup plus forte qu'avant. Elle a encore des douleurs. J'ai trouvé ça beau. Et puis, bien sûr... le plus beau miracle, c'est rencontrer c'est la femme de ma vie, quoi. J'ai rencontré la femme de ma vie.
Ben oui, ça, on va en parler, mais waouh, quelle belle histoire que tu viens de nous partager, Olivier. C'est vraiment très touchant. C'est waouh, des petits miracles. Puis, le retour, ton premier retour, comment ça a été?
Oh là 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 là. Mon premier retour, j'arrive, je commence à raconter à mes copains qu'en fait, j'allais mal et que tout allait bien. Je commence à parler de moi en profondeur. J'ai perdu la moitié de mes amis parce que j'aurais fait peur déjà. Donc ça, c'était déjà, il y avait déjà une sélection que j'ai faite au niveau de mes amis. Enfin, que c'est fait naturellement parce que eux voulaient pas aller aussi loin. Et puis, j'ai commencé à me dire, je vais faire du sport, je vais garder cette énergie. Mais là, j'ai commencé à avoir mal à mes genoux, mal à mes cervicales. J'ai fait des radios et le médecin m'avait dit, monsieur, je sais pas si vous avez ça aux États-Unis, les médecins de famille. En Belgique, on a des médecins de famille. C'est horrible. Ils vous guérissent à coups d'antibiotiques. Pas au niveau mental. C'est plutôt au niveau bobo, quoi. Ils vous voient pas dans votre entièreté. Et donc, il me dit, monsieur, vous avez de l'arthrose dégénérescente et vous avez des problèmes cervicales. Alors moi, ça m'a totalement cassé. Et donc, de nouveau, je suis retombé dans ma tristesse.
Ouais.
Et finalement, j'ai fait un burn-out. Ça, c'est très à la mode dans les pays occidentaux. Et finalement, mon médecin m'a dit d'aller voir quand même un médecin sportif. Et j'ai été voir ce médecin sportif et il m'a dit, monsieur, mais vous êtes jeune, vous pouvez repartir faire de la randonnée. Et donc, je suis reparti sur le chemin de Compostelle une deuxième fois parce que je me rendais compte que j'avais besoin de ça, quoi.
Ouais.
Et là, je suis tombé malade à mon retour. Et grâce à ça, si tu veux, je pouvais même plus fumer parce que je fumais encore à ce moment-là. J'ai lu un livre qui s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer. Désolé, je fais une publicité, mais ça a marché. En tout cas, en 2010, le 15 août 2010, j'avais arrêté de fumer, quoi. Là, maintenant, ça fait 10-11 ans que je ne fume plus du tout, quoi.
Wow.
J'ai totalement arrêté. Et j'ai pas de manque et tout ça. Mais je pense qu'il y a ce bouquin, il y a aussi le fait que quand tu découvres au fond de toi-même qu'il ne t'aime plus et que tu fumes pour te détruire et que tu finis par t'aimer,
ouais.
Bah, t'as plus besoin de béquilles, quoi. T'as
non,
plus besoin
exact.
De te détruire et donc,
Exact. Puis toi, Olivier, qu'est-ce que tu dirais, en général, la plus grosse différence en toi entre ton premier chemin, avant de faire ton premier chemin et maintenant, mettons? C'est quoi qui a le plus changé en toi, tu trouves?
Je veux dire que je vis dans le présent. Je vais plus dans le passé, dans les regrets du passé, et je vis plus dans la peur du futur. J'essaie de vivre un maximum dans le moment présent.
Ok, t'en profites.
Ça, je pense que ça, c'est la chose que parfois on oublie, qu'on est dans ces sociétés qui sont basées sur la peur, toujours, et dans les regrets. Ça, je pense que ça, c'est le chemin, ça m'a appris à vivre dans le moment présent. Tu vois, un beau paysage, tu discutes avec une personne, ben, tu penses pas à autre chose. T'es vraiment avec la personne, tu discutes avec elle.
Ouais.
Et voilà quoi, c'est vivre dans le moment présent, ici et maintenant. Ça, je pense que c'est ce que le chemin t'apprend. C'est une des leçons du chemin.
Ouais.
C'est une des leçons, parce qu'il y en a tellement de choses.
Ouais.
Simplifier sa vie, complique la vie, parfois on se complique la vie. Te moquer un peu de ce que les gens pensent, tu vois. Quand
ouais.
tu dis, c'est quelque chose de personnel. Tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi d'abord. Tu peux pas aider les autres si toi tu t'es pas aidé toi-même. Qu'est-ce que tu vas y donner des conseils à des gars alors que toi ta vie c'est un désastre absolu. Donc si tu réussis à faire de toi une vie heureuse, là tu peux vraiment aider les gens.
Ouais, ouais, exactement.
Ah, ce que je peux te dire encore que le chemin m'a apporté.
Ben, ça apporte tellement de choses, mais comme tu dis, tu as très bien résumé, parce que ce qui arrive, c'est que il y a tellement de choses qu'on découvre sur le chemin qu'on ne connaissait pas, que c'est toutes des découvertes finalement.
Exactement. C'est sortir de sa zone de confort.
Oui, exactement. Voilà. Ouais, ouais.
Si vous n'êtes pas bien dans votre vie, pas seulement, hein, ou si vous voulez de l'aventure, hein, sur le chemin, c'est pas que pour des raisons négatives, tu peux le faire pour des raisons positives. Mais parfois, sortir du train-train quotidien, c'est tellement chouette, quoi. Parfois, métro, boulot, dodo, comme on disait dans les années 60, 70, 70, parfois, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort et de faire des choses nouvelles,
ouais.
Quoi.
Et être dans un environnement complètement étranger à ce que tu connais aussi, parce que là, on se retrouve en Espagne. Quelqu'un qui parle pas espagnol, ben c'est sûr que ça peut peut-être faire peur au début, malgré que c'est zéro problème là-bas. Mais on se retrouve vraiment avec des valeurs complètement différentes. Moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus sur le chemin, c'est les valeurs des gens espagnols, comment c'est beau, c'est familial, comment les gens, quand on passe dans les petits villages, ils nous disent « buen camino ». Il y a tellement de belles choses sur le chemin. Mais toi, avant le premier chemin, je reviens à ça, quand tu entendais le mot « pèlerin », y a-t-il une différence entre ce que tu pensais avant et ce que tu penses maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pèlerin?
Pèlerin, c'est... il y a le côté religieux, mais c'est quelqu'un qui part... oh là là, c'est une très très bonne question, ça. Ouais. C'est quelqu'un qui chemine, voilà, qui chemine et qui a un but. Donc le but du pèlerin, c'est un but religieux, c'est aller jusqu'à Compostelle pour des bêtises qu'il a faites, pour payer quelque chose. Donc la souffrance, comme on dit, finalement, ça a un but. Voilà, on souffre pour un but. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui va souffrir pour atteindre un but, soit religieux ou soit spirituel.
Wow, c'est bon ça. Puis est-ce que tu trouves que avec les chemins que tu as faits, ça t'a apporté une certaine générosité que peut-être que tu n'as... Je ne sais pas si tu étais un être généreux avant ton premier départ, mais as-tu remarqué une certaine différence dans la générosité que tu as maintenant par rapport à ce que tu avais avant?
Oui. C'est pas un de mes plus beaux moments, mais je me souviens qu'avant d'arriver à Logroño, tu vois, j'avais tellement mal, je savais plus marcher. Il y a une jeune Allemande qui m'a porté et un jeune Flamand qui a porté mon sac, hein, un Belge du Nord, si tu veux.
Ouais.
Et parfois, des moments où, comme j'avais qu'un litre d'eau, parfois, il me manquait d'eau et les gens qui m'ont aidé, qui m'ont apporté de l'eau. Et à mon tour, si tu veux, sur le chemin, mais pas seulement sur le chemin, il y avait un documentaire d'une fille, je te conseille de l'interviewer aussi, elle est très bien, elle s'appelle Pauline Wald, elle a fait aussi un petit film sur Compostelle, elle en a ressorti un autre, elle est assez intéressante, elle a appris des choses aussi, et dans les interviews qu'elle fait avec des gens, il y en a un Anglais à qui elle a demandé pourquoi il faisait le chemin, et je trouvais ça très émouvant, il a dit parce que je me sens une meilleure personne. Eh ben, quand je suis sorti du chemin, quand je suis en Belgique, quand je vois quelqu'un qui demande un peu d'aide, un peu d'argent et tout ça, je lui donne, dès que je peux donner, je donne quelque chose, tu vois. Parce que il m'est arrivé d'être dans la mélasse. Et, si j'avais pas eu des bons samaritains, eh ben, je m'en serais pas sorti. Parfois même, ça m'arrive de parler avec des ce qu'on appelle des clochards ou des SDF. Et souvent, c'est des gens qui ont des vies extraordinaires, quoi. Qui sont des gens formidables et qui ont fait le choix aussi de vivre comme ça parce que ils en avaient assez d'avoir des chefs et d'être dans le train-train quotidien, quoi.
Ouais.
Donc, oui, je suis beaucoup plus ouvert aux autres et beaucoup plus généreux. Ouais. Wow. Et puis l'argent, c'est pas quelque chose d'important, comme je te dis, avoir un toit, avoir quelque chose. C'est pas le plus important. Donc, voilà. Maintenant, mon objectif, après mon troisième, quatrième chemin, ben, ça a été de revivre sur le chemin pour pouvoir, à mon tour, aider les autres. J'ai été hospitalier, par exemple. Tu vois, au Soulier à Espérac, j'ai été.
Ouais.
Et puis, j'ai été à Carrion de los Condes, aussi hospitalier. Quoi. Donc, tu vois, j'aide les pèlerins, je les conseille. C'est peut-être mon projet de vie. Hein. Je pense que c'est ça mon projet.
C'est super beau ce que tu dis. Puis tu vas l'inspirer beaucoup avec ton témoignage, Olivier. C'est vraiment, vraiment très intéressant parce que, honnêtement, là, c'est très touchant ce que tu dis. Puis tantôt, tu as effleuré un petit sujet là, qui est vraiment beau. La rencontre de ta nouvelle femme. sur le chemin. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que c'est extraordinaire, c'est tellement beau. Fais-nous rêver un petit peu.
OK. En fait, je pense que pour être heureux, hein, il y a plusieurs choses à faire. Et je pense que ce qui m'a beaucoup permis de rencontrer ma femme, c'est de faire plusieurs chemins. De rencontre. Il y a beaucoup de femmes sur le chemin qui sont intéressantes, qui sont à l'écoute, à qui tu peux discuter. Ce que tu peux pas faire dans la vie réelle, dont tu fais des dates. Là, t'as des personnes avec qui tu peux discuter, qui sont intéressantes d'ailleurs, parce que c'est des femmes qui sont aussi en recherche, hein, qui sont en cheminement aussi, hein, comme les pèlerins, et en souffrance, donc elles sont à l'écoute, et toi tu es à l'écoute. Et ma femme, je l'ai rencontrée grâce aussi au fait que j'avais appris à m'aimer et que je pouvais m'ouvrir plus. Et on s'est rencontrés. Elle a fait le chemin en 2018 du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je l'ai rencontrée, contrairement à ce que j'aurais pu croire, sur des sites qui parlaient de Compostelle. Donc sur un groupe de conversation Facebook. Okay. Et on a discuté tous les deux. Et je lui ai expliqué que j'écrivais un livre. Et je suis en train d'écrire un livre. Enfin, j'ai fini le livre, mais je le corrige parce que j'ai beaucoup de trucs. Elle était intéressée et on a parlé toute la nuit. Donc elle voulait faire Vézelay et le Camino del Norte. J'avais fait une fois ou deux, donc on avait discuté de ça. Elle m'avait expliqué que elle aussi, elle avait envie de changer de vie et que en faisant le chemin une fois, elle avait compris que c'était là qu'elle voulait vivre, sur le Camino Francés. Ouais. Et on a discuté pendant une journée et le lendemain, on a reparlé et on s'est dit on va se marier, on va vivre ensemble.
Ah oui.
Voilà, on est tombé amoureux comme ça. C'était pas facile parce que cette femme, elle vit en Russie. Elle était de Saint-Pétersbourg. C'était en 2019. Okay. En janvier, le 29 janvier 2019 qu'on a discuté.
Ok, ça va faire un an, là. Ça va faire à peu près un an.
Oui, voilà. En 2019, on s'est parlé en 21, un peu plus d'un an, ouais, presque deux ans. Ouais. On a dû attendre deux mois avant de se voir. Elle partait en voyage scolaire avec ses élèves à Paris. On s'est vus. Ça a été formidable. C'était rouge, bleu, c'était Broadway. C'était magnifique. Beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Une femme lumineuse.
Oui.
Et après, elle m'a proposé d'être hospitalier avec elle à Espérac, donc en France. Et donc là, on a fait à manger pour les pèlerins. On a nettoyé. On faisait pour des groupes de 10, 20 personnes. On nettoyait les chambres, on faisait à manger, donc on faisait tout. Et puis, après, on a décidé, bon, on a rencontré mes parents, j'étais à Saint-Pétersbourg, elle est venue en Belgique. Et puis, on s'est dit, si on se marie, il faudrait qu'on fasse quelque chose avant. Et ça, je le conseille à tout le monde. Faites votre lune de miel avant de vous marier et pas après. Parce que après, c'est trop tard. Donc, faut le faire avant pour bien connaître la personne. Et donc là, on est parti faire Compostelle pendant 49 jours. On a pris un peu de notre temps, mais on a été jusqu'à Finistère, donc de Saint-Jacques, ouais. De Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Finistère pour apprendre à se connaître. Et voilà, ça a tenu. Et donc après, on s'est mariés assez vite, quoi. Le 8 janvier, on s'est mariés. 8 janvier 2020, on s'est mariés. On a eu de la chance parce qu'après, il y a eu les confinements. Donc là, ça aurait été catastrophique.
Wow. Puis tu avais deux invités spéciales à ton mariage, je pense.
Ah oui, oui, oui. Donc, elle a invité une de ses copines qui avait fait le chemin avec elle en 2018, Virginie, une Lyonnaise qui vit maintenant du côté de Grenoble. Et moi, j'avais invité des gens que j'avais rencontrés sur le chemin. Donc, il y a James, c'est un Irlandais du Nord.
Ouais.
Je parle anglais et espagnol. Il est venu à mon mariage. Lui, j'avais rencontré en 2015. D'habitude, je voyage seul sur le chemin et avec lui, je sais pas pourquoi, il y a eu une alchimie et on a voyagé en groupe, quoi. C'était en 2015, c'était un ou deux ans après le film The Way. Et donc, il y a eu une multitude d'anglophones qui ont fait le chemin entre 2015 et 2016. C'était blindé d'Américains, d'Irlandais et tout ça. Enfin, tous les anglophones étaient là. Et je me suis retrouvé dans un groupe d'anglais et on rigolait, quoi. On s'amusait. Bon, nous, les Belges, on aime bien boire, on a l'alcool joyeux, tu vois, avec la bière et tout ça. Les Irlandais, c'est pareil. Et donc, avec lui, on s'est amusé à boire des San Miguel, des Estrella, voilà, tous les soirs, et on s'est amusé comme des fous, et on a décidé de se revoir. Et alors, chaque année, il m'invite à Belfast, il est Belfast, et moi, chaque année, bah, il vient, et il vient me voir en Belgique chaque année, quoi. Sauf cette année où la dernière fois que je l'ai vu, c'était à mon mariage. Quoi.
Ouais.
Et puis, il y a aussi quelqu'un que j'avais rencontré quand j'étais hospitalier à Carrión de los Condes, à l'albergue Santa Maria, quelqu'un qui faisait le chemin en sens inverse. Radio Camino, elle est connue un petit peu.
Ouais.
Et elle, c'est un truc qu'elle peut plus faire maintenant en ces temps de Covid. C'était, elle faisait des hugs. Donc ceux qui connaissent le chemin, ils l'ont peut-être vu en 2015.
Ouais.
Elle faisait free hug. Elle avait un panneau avec marqué free hugs.
Ouais.
Et dès qu'elle voyait les gens, elle faisait des câlins en sens inverse. Quoi. Et donc, elle avait entendu parler de moi en tant qu'hospitalier, que j'étais belge. Elle était belge. Et alors, par hasard, on s'est retrouvés au bar, à discuter, elle était juste à côté de moi, comme on était compatriotes, on a sympathisé, et en Belgique, ben, on s'est revus plusieurs fois, elle organisait des activités, des pots du pèlerin pour donner des conseils à des pèlerins belges qui voulaient partir à Compostelle.
D'accord.
Et voilà, et on est restés de très bons amis, elle était là à mon mariage, quoi.
Ah,
c'était
oui.
assez sympa.
Puis, tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant, parce que moi, je ne l'ai pas expérimenté encore, mais souvent, quand on va à Compostelle, on marche souvent seul. Après ça, on rencontre des gens, on marche avec des gens. Mais toi, tu le fais avec ta femme. Est-ce que tu vois une grande différence entre marcher avec notre amoureuse ou notre amoureux ou marcher seul? Y a-t-il une grosse différence que tu peux nous dire?
Ben, écoute, si tu es bien dans ta vie, tu peux le faire avec ta femme et tout ça, je pense que y a pas de problème, mais quand tu n'es pas bien ou que tu veux de l'aventure, si tu veux un peu de la liberté un petit peu, c'est bien de partir seul. Donc je veux dire, moi j'ai fait 11 fois seul, chaque fois ça me faisait un bien fou, parce que quand tu es seul, tu peux être rencontrer des personnes, et puis si ces personnes t'ennuient, tu peux rencontrer d'autres, ou bien tu vois, tu as plus de liberté quand tu es tout seul, c'est une liberté totale. Ça, c'est formidable. Quand tu es avec ta compagne, ça peut être intéressant pour approfondir ta relation et voir si c'est vraiment elle qui te convient.
Wow.
Donc, je dirais que les deux sont très, très, très bien.
Ah, wow. Ah, c'est super parce que vraiment, là, c'est... Moi, j'ai vu un couple, la première année que j'ai marché Compostelle, j'ai vu pendant 5-6 étapes un couple marcher main dans la main pendant les 6 étapes. Je marchais toujours derrière eux juste pour les regarder. Ils marchaient quand même d'un pas rapide. Et mais tout le long, c'était juste main dans la main. C'est la première fois que je voyais ça. Des longues étapes là, de 25 à 30 kilomètres, mais toujours main dans la main. Et je trouvais ça tellement magnifique. C'était deux personnes de nationalités différentes. Puis on voyait que les valeurs étaient à la même place. Puis ça m'impressionne toujours de voir ça, des gens marcher avec leurs amoureux ou des gens qui vont marcher avec leurs enfants. J'ai vu quelques fois des gens avec des familles aller marcher quelques tronçons, quelques étapes. Pas tout Compostelle, mais quelques étapes. Et je trouve ça valorisant. Je trouve ça inspirant de voir des gens comme ça. Puis c'est super bien que tu nous partages ça parce que moi, personnellement, j'en connaissais pas là, des gens qui ont marché en couple.
Eh bien, objectivement, quand tu as fait une fois Compostelle, c'est très difficile d'avoir une femme avec qui tu puisses t'entendre qui n'a pas fait Compostelle. Parce que tu as été tellement en profondeur en toi-même que tu deviens profond. Même si tu veux pas aller être profond, surtout si tu l'as fait seul, ça sera difficile de rencontrer une. Donc moi je pouvais pas m'imaginer ne pas avoir de compagne qui ait fait Compostelle.
Oui, et surtout, à ton retour, souvent... Comme on disait tantôt, on trouve ça difficile les retours parce qu'on veut toujours jaser de Compostelle. Et puis, ben, si tu es allé avec ta femme, ben, tu peux en parler.
Ben oui.
T'sais, elle va toujours t'écouter finalement.
Ben exactement. Il y a un bouquin, j'ai apprécié moyennement parce que c'est pas du tout mon voyage, mais qui m'a fait rire quand même, deux, trois passages, c'est Immortelle randonnée. L'auteur, à un moment, il dit, voilà, il est avec des gens, il dit, voilà, je vais faire Compostelle. Et alors, il y a personne en face d'elle qui se dit, putain, ce gars-là, il doit avoir un problème. Et alors, les gens, pour éviter de parler de Compostelle, ils vont dire, oui, moi aussi, j'aimerais bien le faire. Et puis, ils parlent vite d'autre chose, tu vois. Donc, il y a que les gens qui ont fait Compostelle, en gros, qui peuvent se comprendre entre eux, tu vois. Là, on est parti. Dès que je tombe sur un gars qui a fait Compostelle, il y a pas longtemps, j'avais pris l'avion pour aller voir ma femme et j'avais gardé mon sac à dos avec ma coquille. eh ben, il y a un gars qui est venu me parler, il m'a dit, ah, moi, j'ai fait Compostelle, et on a parlé pendant 30-40 minutes quand on était déjà triste de se quitter parce que, on s'arrête plus quand on parle de Compostelle, on est inarrêtable.
Ah ouais.
Ouais, bon. Je suis prof, hein, mes élèves, ils en ont marre d'entendre parler de Compostelle. Ils disent, ah, monsieur, je dis, vous savez ce que c'est ma passion? Ah oui, mais c'est Compostelle, monsieur. Ah non, ouais, oui, bien sûr.
Et là, en mars, Olivier, tu vas vivre un autre grand moment. Je te trouve tellement, tellement chanceux.
Ouais.
Tu vas ouvrir le célèbre bar La Tienda à Marie, près de Pamplonne. Ouais. Tu vas devenir propriétaire officiellement.
Je m'appelle Olivier Amiri.
Ouais.
Et il se trouve sur le chemin un bar tienda à 14 kilomètres un peu avant Pamplune qui s'appelle Amari. Le bar Amari, tenu par Angel Amari. Donc, déjà, c'est le type, il a presque le même nom de famille que moi. Tu vois, c'est surréaliste. Ça.
Ah, ouais,
déjà,
ouais.
C'est peut-être un signe.
Ouais, exact.
Et en faisant, ah non, ma femme me dit que c'est pas son nom de famille, pardon. Ah oui, Amari, c'est une déesse basque. Attends, ouais. Voilà, en fait, Amari, c'est une déesse basque. Merci, mon amour. Ma femme est là, elle entend tout. Donc, voilà. Moi, je n'avais pas écouté ça. Je suis un peu sourd. Alors, parfois, quand on me parle, je n'entends pas tout. Donc, bon, voilà, c'est l'âge. Et donc, Amiri, déjà, c'est un hasard, quoi. Donc, en fait, c'était en 2019, quand on a fait le chemin avec ma femme.
Oui.
On a vu cette bartienda et on voulait acheter quelque chose ensemble sur le chemin. Parce qu'on avait compris que notre bonheur, trouver notre place. Le bonheur, c'est trouver sa place dans l'univers. Tu vois, comme les Grecs disaient, pour être heureux, il faut trouver sa place dans l'univers. Et moi, ma femme, elle savait déjà bien avant moi que sa place dans l'univers, ce serait sur le chemin de Compostelle.
Ouais.
Et donc, on demandait à des gens si ils vendaient leur commerce ou s'ils connaissaient pas un endroit où on pourrait acheter une auberge et tout ça. Et puis, au bartienda, on lui demande et il nous a dit, oui, moi, je revends mon commerce. Alors, on a décidé de le prendre. Et ça a été retardé à cause du Covid. On a dû attendre un an.
Oui.
Et donc, là, maintenant, ça s'est fait. Donc, par Zoom, on a fait le contrat. Donc, tout est OK, tout est signé, tout est payé. Donc, fin mars, on s'installe là et on ouvre le 1er avril.
Là, ce que tu me dis, c'est que toi, tu déménages pour de bon de la Belgique.
Ah oui,
et tu t'en vas rester directement en Espagne avec ta femme.
Oui. C'est fini. La Belgique, c'est terminé. Ouais, non, mais c'est là que ma place est, hein. Je veux dire, c'est sur le chemin. Si tu marches tu fais 11 fois le chemin, j'ai essayé de faire autre chose, mon travail me déplaisait pas, mais j'avais l'impression d'avoir fait tout le tour, tu vois.
Ouais, ouais.
Et en 2012-2013, quand j'ai refait un chemin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ne plus faire, pour changer de métier,
mmh.
Et j'ai pensé faire cuisinier. Tu vois, cuisinier, c'est un métier, tu peux voyager et tout ça. Donc, j'ai dû rester encore en Belgique pour terminer mes études de chef.
Oui.
Et puis, j'ai fait mes stages en tant que cuisinier, mais j'ai pas aimé travailler pour d'autres chefs. Donc, ça m'a emmerdé, quoi.
Okay. Bon,
mais je suis content, hein, parce que quand j'ai refait les chemins, je me suis intéressé à d'autres choses.
Oui.
Mais c'était pour quitter. Donc, je voulais avoir un métier avec lequel je pouvais voyager. Parce que, tu vois, quand tu fais le chemin, tu t'arrêtes, tu repars, tu voyages beaucoup.
Ouais.
Et à un moment, je me suis demandé si je ne pourrais pas devenir quelqu'un de nomade, tu vois.
Ouais,
pas
quelqu'un
de sédentaire, mais un nomade, voyager léger, avec mon sac à dos, c'est tout. J'ai eu un peu cette tentation, et puis, j'ai rencontré ma femme, quoi.
Mais je pense que c'est la magie du chemin, ça, hein, parce que, au départ, quand on voit le nombre de kilomètres qu'on a à faire, on voit 800, on est paniqué. Et puis, soudainement, au bout de 5-6 étapes, on ne regarde plus le nombre de kilomètres. On fait juste mettre un pied devant l'autre et ça nous réconforte. Puis on adore ça. Puis on devient tous des nomades. C'est vrai ce que tu dis parce que on veut toujours marcher.
Mais oui.
On veut toujours marcher. Puis là, vu que tu vas avoir cette barre-là, est-ce que ça va t'empêcher de repartir marcher ou vous allez vous consacrer peut-être après les fermetures, ou y a-t-il quelque chose que vous avez prévu de retourner marcher pareil ou
Alors, j'ai écouté ton podcast avec Maddy.
Oui.
Et finalement, aller en hiver, marcher en hiver, ça peut être sympa aussi, c'est une expérience nouvelle, quoi.
Ben oui.
Je suis ouvert à des nouvelles expériences.
Ouais.
D'abord, j'ai envie de faire le PCT, là, le Pacific Trail Coast, j'aimerais bien
essayer,
j'aimerais bien faire le Québec, là, vous avez la marche de Québec, là, ça m'a l'air super sympa, super convivial avec l'esprit de Compostelle. Là,
ouais, exact.
Ça m'a de Pascal Auger, donc ça m'a l'air super sympathique, ça aussi, ça m'a l'air super génial. Ouais. J'aimerais faire le hors période, faire le Camino de la Plata, la Via de la Plata, tu vois, partir de Séville, le Camino Mozarabe, en d'autres périodes, parce qu'il fait encore bon dans ce coin-là, en hiver.
Ouais. Il y a un gros Camino aussi au Japon, hein.
Oui, les 100 temples, 100 temples. Oui, c'est ça aussi qui m'a fait, que j'ai adoré sur le chemin, c'est tous ces Asiatiques que tu rencontres.
Oui, les Coréens.
Et alors, les Coréens, j'ai essayé de creuser pour savoir d'où ça venait. Et en fait, il y aurait une journaliste coréenne qui a été passionnée par le chemin de Compostelle et qui a recréé plus ou moins la même chose en Corée. Et donc, elle a rendu ça populaire. Ouais. Et alors, maintenant, les Coréens. Et il y a aussi, parce qu'il y a aussi une grosse communauté catholique en Corée. C'est la plus grosse communauté chrétienne.
Et il y a aussi un film aux États-Unis qui est sorti qui s'appelle The Way, avec Martin Sheen et Emilio Estevez, qui a rendu populaire énormément le chemin de Compostelle aux États-Unis et même en Chine, parce que c'est un film qui est passé un peu partout à travers le monde et les gens sont beaucoup identifiés à ce film-là. Sauf que dans le film...
C'est magnifique.
Ah oui, c'est un très bon film. Mais on ne voit pas tout le temps qu'on marche de longues heures comme ça. Il jase, mais on... Moi, j'avais écouté le film aussi et quand je m'ai rendu sur le chemin la première fois, je trouvais que c'était plus dur que dans le film.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais il y a... C'est fort différent, le ton du film est fort différent parce que c'est, il perd son fils, hein,
ouais, tu vois, exact.
Et c'est formidable parce que tu vois, il a toute sa colère en lui.
Ouais.
Et puis à un moment, on comprend pourquoi il supporte pas le journaliste irlandais là, qui veut faire des guides de voyage et qui lui dit, en fait, je te déteste parce que tu me fais penser à mon fils. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique.
Ah ouais, on voit l'évolution du personnage, puis c'est un peu ce que moi-même j'ai vécu. On dirait que les premiers jours à Compostelle, on dirait que c'est comme une purification. Je sais pas comment le dire, mais on dirait que toute notre punition sort, on pleure plus loin dans le voyage, on vit d'autres genres de moments. C'est ça, les chemins de Compostelle, c'est de rentrer à l'intérieur de soi-même puis de vivre des grands moments là qu'on ne vit pas tellement souvent dans nos vies particulières. Puis toi, ben avec ta femme, tu vas vivre des grands moments avec ton bord à Marie. Puis ça, comme je te disais tantôt, nous les Québécois, on t'envie beaucoup parce que nous les Québécois, quand on va marcher là-bas, mais quand on revient, on se dit toute la même chose. On veut ouvrir un albergue, on veut ouvrir un restaurant. On veut aller rester là-bas, même si on est à 7000 km de là. Et là, je te trouve immensément très chanceux. Vraiment.
Oui, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est qu'on on a eu de la chance, mais c'est... Il y a des Québécois qui réussissent à faire ça, hein, qui réussissent à... J'en ai rencontré des hospitaliers, hein. Ouais. Mais c'est vrai que ça vaut le coup. Hein. C'est vrai que pour nous, c'est plus facile parce qu'il y a moins de formalités administratives.
Ouais, ouais. Juste en terminant, parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore. Tu es allé à Fistera, tantôt, tu parlais du Cap Finistère.
Oui.
Qu'est-ce que tu as vécu en terminant quand tu as vu la borne 0 km là-bas? Est-ce que tu as eu des grands moments à l'intérieur de bonheur, d'aller au bout du monde? Comment t'as vécu ça?
Ben, j'ai pas vraiment connu ça parce que j'avais fait plusieurs fois le chemin, mais tu te dis que voilà, c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Oui, j'étais content, mais c'était pas...
C'était plus ton arrivée à Compostelle, voilà, toi, qui te marquait.
Voilà, ça, c'est... Alors, Yann, il l'a fait en une fois. Bon, pour lui, ça doit être formidable, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est pour ça que je te dis, si jamais t'as l'occasion, faut interroger ma femme, parce qu'elle m'a appris quelque chose que j'avais peut-être pas forcément compris en faisant les 11 fois le chemin. Ouais. Hein, je suis un homme à combustion lente, quoi. Donc, il me faut du temps pour réfléchir. Donc, de 11 chemins, c'était important pour moi.
Ouais.
Mais, elle m'a appris à à me dépasser, tu vois, aller plus loin dans la souffrance. Parce que moi, avant, je me disais, Santiago, c'est bon, quoi. J'ai marché 800 kilomètres, je vais pas aller plus loin encore, tu vois.
Ouais.
Et aller à Fisterra, c'est peut-être aller jusqu'au bout de quelque chose, aller au fond de quelque chose, tu
ouais,
vois.
Ouais.
Et je crois que je reconnais, je reste humble, je me dis que mon plus grand défaut dans la vie, c'est de ne jamais finir quelque chose jusqu'au bout, tu vois.
Ouais.
Et donc, maintenant que tu me poses la question de Finistère, je te dirais c'est ça. Ça m'a appris à aller jusqu'au bout, vraiment aller tout donner, quoi.
Ouais.
Kilomètre zéro, c'est donner tout. Et peut-être, je suis peut-être pas le seul à être comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent juste avant la fin, quoi. Ils ont peur de réussir, d'aller jusqu'au totalement au bout. Donc maintenant, je réfléchis là avec ta question. Aller jusqu'au Finistère, ça m'a permis d'aller la fin, hein, d'aller jusqu'au bout de quelque chose.
Moi, quand j'arrive à Finistère, c'est vraiment, vraiment bizarre. J'ai toujours peur que c'est mon dernier chemin. Et à chaque fois que j'arrive à Finistère, je m'étends à côté de la borne, je vais voir le coucher de soleil. J'ai toujours cette réflexion-là, des fois, que c'est mon dernier chemin. On dirait j'ai comme un moment de tristesse quand j'arrive à Cap Finistère, même si c'est tellement beau, mais j'ai toujours peur de pas pouvoir ou qu'il m'arrive quelque chose pour que ça soit vraiment mon dernier chemin. Puis finalement, j'ai toujours l'intention d'y retourner.
Moi, je peux te le dire, hein, si on fait souvent le chemin, c'est que y a pas à réfléchir, quoi. C'est là que tu dois vivre ta vie, quoi. C'est là que tu dois finir ta vie. C'est un moment, c'est chez les Grecs, t'as l'histoire d'Ulysse qui quitte son île pour faire la guerre, et puis après il veut retrouver sa femme, mais il est puni par les dieux, et donc il est perdu dans la mer pendant 7 ans. Et finalement, il retrouve sa femme, il est heureux et tout ça. Et je pense que les sagesses anciennes, elles sont très importantes. Chez les Grecs, le bonheur, c'est trouver sa place dans le monde, dans l'univers.
Mmh.
Moi, je suis convaincu que ma place dans l'univers, c'est sur le chemin de Compostelle. Peut-être que toi aussi, ta place, et j'en suis convaincu, hein, vu que tu fais Mordi de Compostelle et que tu interviews tous les gens, donc tu es toujours dans la même énergie.
Ouais.
Tu dois t'installer sur le chemin.
Ah ouais, moi, c'est le plus proche que je peux être du chemin en faisant ces interviews-là par rapport à Compostelle. C'est ce que je peux faire en ce moment. Mais éventuellement, moi, je vais faire comme toi. Je vais aller vivre sur le chemin, c'est certain. C'est un de mes rêves. J'espère que ça va arriver. Puis en terminant, Olivier, je voulais juste te dire que tu nous as fait vivre de grandes émotions ce soir. Moi, je suis vraiment très content de notre rencontre, de ce que tu nous as fait vivre. Puis tu vas inspirer énormément de gens. Souvent, on pense qu'une parole... Tu sais, comme moi, des fois, il y a des paroles qui me marquent, puis toi, t'en as dit plusieurs ce soir.
Oh, c'est gentil, c'est très gentil. Okay. Mais moi, je le dis à tout le monde, hein, dépêchez-vous de vivre, allez vite sur le chemin, parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. La vie, c'est très court.
Ben, merci beaucoup, Olivier, puis à la prochaine, puis je vais mettre les photos de votre futur petit restaurant sur notre site, comme ça, les gens vont pouvoir arrêter, vous voir et vous dire un beau bonjour à toi et à ta femme.
N'hésitez pas, je peux vous donner des conseils, des bons restos, comment ne pas avoir mal et comment trouver du sens à ça.
Ouais, parfait. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi. À bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Buon cammino.
Buon cammino. Igualmente.
Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers Mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!